Aujourd'hui, les gens n'ont pas envie d'aller travailler, je suis désolée de le dire.
Espèce de chômeur.
Hôtel, café, restaurant.
Je traverse la rue, je vous en trouve. Il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Espèce de chômeur.
Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre.
Espèce de chômeur.
Alors c'est ça. Les chômeurs seraient des fainéants, des assistés, bien contents de ne rien faire. Dans Espèce de chômeurs, on met ces idées reçues à nu. On prend le temps d'écouter celles et ceux qui vivent le chômage, qui se battent et qui se relèvent. Des histoires de vie puissantes dans un podcast de solidarité nouvelle face au chômage. Repensez à votre enfance et imaginez qu'un matin, des terroristes attaquent votre famille, vous forçant à fuir et à abandonner tout ce que vous connaissez, avec pour seul espoir de construire une vie meilleure ailleurs. C'est ce qu'a vécu Daouda en quittant le Mali. De l'Algérie à la Libye et de l'Italie à la France, il a traversé des épreuves qui auraient brisé bien des vies. Il a travaillé sans être payé, a survécu à la perte de proches et a subi des discriminations. Chaque étape de son chemin est une preuve de courage. Daouda a tenu bon. Arrivé en France en 2017, après un périple de 4 ans, il a persévéré et a appris un métier. Accompagné par Solidarité Nouvelle face au chômage, il a obtenu son CAP, malgré des conditions de travail parfois très hostiles. Après avoir enregistré cet épisode, il m'a dit « Tu sais, en France, je crois qu'il y aura toujours des gens pour aider les autres. La France, c'est un pays de métissage. Et c'est ça qui est beau. » L'histoire de Daouda est pleine de courage, de résilience et d'horizon. Attention toutefois, certains passages peuvent être difficiles à entendre. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour écouter cet épisode.
Je m'appelle Daouda et je viens du Mali. J'ai 24 ans aujourd'hui, je suis né le 12 2000. Au Mali, au Gao. Je suis parti à l'âge de 14 ans, du coup je ne connais pas beaucoup de choses au Mali. J'ai grandi à Algérie, Maroc, à Libye, un peu à Italie et à France. Quoi. Ça fait 7 ans que je suis en France. Je connais mieux France qu'au Mali aujourd'hui. Pourquoi je suis parti au Mali? Parce que je n'avais plus de famille. Je ne veux pas te dire exactement j'étais à quel âge parce que je n'ai jamais été à l'école, je ne connais pas les jours, je ne connais pas les mois. Du coup, c'était très compliqué pour moi pour dater des choses. Moi, je pense que j'étais à l'âge de 12-14 ans. Quand je parle aux gens comme ça, c'est ça que je dis, à l'âge de 12-14 ans où je montrais un gamin, j'étais cet âge-là et après je suis parti. Et la sœur de ma mère, et je l'ai contactée. Elle m'a dit que voilà, tu es né le 12. Tu es né le 12 2000. Du coup, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais elle m'a dit comme ça. En 2012, il y avait beaucoup de guerres au Mali. Du coup, les djihadistes qui sont arrivés, ils ont pris mon père. Parce que mon père, il n'était pas musulman. Il dit qu'il faut que mon père part à la mosquée. Et ma mère porte des volets ou avec des gants. Mon père, il n'a pas accepté. Après, ils ont parti avec mon père. Ils ont battu mon père jusqu'à... Voilà, il est mort. Ils ont pris les corps de mon père. Ils ont venu jeter devant nous. Après là, ma mère devient comme un peu de folle. Après, elle me dit, Daouda, il faut partir. Parce que je ne peux pas te prendre en charge. Du coup, je ne sais pas où tu veux partir, mais il faut fuir, quoi, en fait. Quoi. C'est comme ça que je suis parti. Je suis parti comme ça. J'ai rencontré un monsieur qui connaissait mon père, ils travaillaient ensemble. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ma mère m'a dit qu'il faut que je pars de Mali parce que je suis en danger ici. Après, il me dit, ok, viens avec moi en Algérie. Du coup, il me prie, il me met dans le camion, il me cache. Parce qu'à l'époque, on ne peut pas voyager avec un enfant comme ça, c'était très compliqué. Du coup, il me cache dans un troupeau de vaches jusqu'en Algérie. Après, en Algérie, il m'a dit, bon, je te laisse ici, mais tu te débrouilles tout seul, je ne vais pas te prendre en charge parce que je n'habite pas ici en Algérie. Il m'a descendu ici, après, c'est parti comme ça en Algérie. Après, j'ai rencontré les Maliens là-bas aussi. Ils étaient très gentils avec moi parce qu'ils voient que j'étais trop petit, je ne connais rien. Et après, ils m'ont aidé aussi à rester avec eux. Je travaille comme aide-maçon en Algérie. Presque un an, j'étais dans un chantier en Algérien. On travaillait ensemble. Il a dit qu'on va travailler avec lui et jusqu'à le chantier va finir. Après, le chantier est fini, le monsieur ferme la porte, il part. On travaille depuis un an et il ne nous a pas payé. Il ne nous a pas payé. Après là, on est parti encore. On est parti commencer un autre travail. C'était une jardinière pour ramasser les dattes et le monsieur nous a payé. Après, si on part à la maison, il appelle notre groupe pour venir récupérer notre argent. Et ils arrivent avec les bâtons, avec les massettes, avec les armes et on ne peut pas fuir. Et on sort de l'argent, on leur redonne encore. Après là, on dit on ne peut pas rester là parce que après ils ont tué le Malien. Et moi, j'ai dit non, là, je ne veux pas rester ici. Après, je suis reparti à Maroc. Au Maroc, j'étais dans une ferme pour ramasser des œufs de poule. Mais là, c'était bien parce qu'on mangeait bien et voilà, on mangeait bien, on dort bien, mais ils ne payent pas quoi. Ils ne payent pas. Bon, on fait le trafic aussi. Si le patron il est pas là, comme ils ne payent pas, et on prend des œufs et on va les vendre ailleurs pour récupérer notre argent. Après, on récupère cette petite argent pour vivre quoi. C'est pour ça que je me suis dit, je ne vais pas rester là. Après, j'ai entendu des gens, parce que j'avais des Ivoiriens là-bas, j'ai entendu, mais ils ont dit que ouais, c'est mieux en Italie. Du coup, ils vont partir là-bas. J'ai dit, mais comment on fait pour partir en Italie? C'est quoi en Italie? Bon, je ne connais pas. C'est quoi en Italie? Et ils m'ont dit, c'est Europe. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi Europe? C'est un pays ou c'est un continent? Il a dit que c'est un continent, c'est une Europe, voilà, et tu travailles là-bas, on te paye bien. Et j'ai dit, ah, ok. Mais je n'avais pas l'argent. Après, là, je suis retourné encore en Algérie pour rejoindre mes collègues maliens là-bas. Parce qu'il y avait un Malien là-bas qui fait des constructions aussi. Du coup, je parlais avec lui. J'ai dit que je vais rester avec toi, je vais travailler, mais tu me payes. Ou je vais travailler avec toi, tu payes quelqu'un pour me ramener à Libye et je vais traverser la mer. Il dit ok, du coup je travaille avec lui à peu près 2 ans. Après il ne m'a rien donné parce que son patron aussi il ne les paye pas. Après il a payé une 4x4 pour me ramener jusqu'à Libye. Là les galères ça commence là-bas. Là où j'ai vu mon meilleur ami, il est mort devant moi là-bas, en Libye. Parce qu'on a travaillé avec un patron et après le chantier est fini. Le patron vient le matin et il ne nous a pas payé à la fin. Après le mec, il est monté jusqu'en haut, à 10e étage, après l'a poussé. Parce qu'on monte jusqu'à 10e étage pour travailler. Il a poussé mon ami à 10e étage. Et ça m'a traumatisé ma tête, en fait. J'ai vite fait partie de là, en Libye. Du coup, là, j'ai pris son téléphone et je l'ai ramené jusqu'en Italie. Après, j'ai appelé sa mère. Bon, je voulais le dire. Son fils il est mort, mais si je le dis que son fils il est mort, et elle aussi va mourir. Du coup, je ne l'ai pas dit. Jusqu'à aujourd'hui, il pense que son fils est ici en Europe, mais non, il n'est pas là. Mais il faut que je trouve un courage pour le dire un jour. On a traversé le bateau en Libye, en Italie. Mais franchement, j'ai eu très peur. Je me rappelle, et c'était une femme nigérienne qui a mis son bébé au monde le même jour qu'après on est parti. Après, cette dame, il a pris son bébé avec des sangs et il est rentré dans le bateau. Après, un jour, il est mort parce qu'il n'avait rien à manger, il n'avait pas de médicaments pour arrêter les sangs. J'ai vu les sangs qui coulent et la dame, elle apparaissait longtemps en fait, tu vois. Elle est morte pour laisser sa petite fille avec nous. Il y avait une dame aussi qui a pris cette petite fille, mais elle n'a pas de lait dans son tété. Après, bon, la petite fille, elle est morte aussi. Après, cette femme aussi, elle est morte dans les bateaux. On était 120 dans les bateaux. Après, quand on arrivait en Italie, on était presque à 110 ou 115. En Italie, on a resté à Lampedusa. Lampedusa, c'est un camp très compliqué. Et ils n'aiment pas les étrangers. C'est pas, et même, ils ont étrangers, mais ils n'aiment pas les Noirs. Du coup, là-bas, il fait très froid et ils nous maltraitent là-bas. On ne mange pas bien. Et après, je me suis dit non, je ne vais pas rester là. Et on nous donne chaque jour un paquet de cigarettes. Du coup, comme je ne fume pas, je garde mes paquets de cigarettes et je les vends. Après, je les vends. Je suis parti à une ville qui s'appelle Treviso. Je suis parti à Treviso et je suis resté là-bas. Et j'avais une malienne là-bas qui fait des restaurations. Du coup, chaque jour, je pars là-bas, j'ai dit « Est-ce qu'il veut me prendre pour le restaurant ?» Il m'a dit non. Et il m'a dit qu'il a un patron, si tu n'as pas les papiers, il ne veut pas te prendre. J'ai dit « Mais c'est quoi papier ?» Il m'a dit « Si tu n'as pas les papiers, on ne veut pas te prendre. » J'ai dit « Ah, mais je veux faire de la vaisselle. Je vais cacher derrière, je veux faire dans la planche. » J'ai dit non. Du coup, j'ai tourné comme ça à Treviso, et après, je me suis dit non. J'ai rencontré un Ivoirien là-bas, il m'a dit « Si tu veux, on va partir à France. » J'ai dit « Mais c'est où en France ?»« France, c'est pas très loin d'en Italie. » J'ai dit « Mais comment on fait pour partir ?» Après, il m'a dit « On prend le train là-bas. » J'ai dit « Mais on n'a pas l'argent, comment on fait pour prendre le train ?» Il dit « On va cacher. » On a rentré dans le train, on n'a pas payé jusqu'à Marseille. Du coup, à Marseille, on est arrivé là-bas et on a fait 2 jours à Marseille. Et on est parti à la mosquée, on s'est lavé et puis on a dormi à la gare de Marseille 2 jours. Après, on dit, là, il fait froid, c'était à peu près en mars. Après, on dit qu'on va venir à Montpellier parce que quand tu arrives à Montpellier, on te prend en mineur et tu vas à l'école. On est arrivé comme ça ici à Montpellier. Mais à Montpellier, on arrivait, c'était le même problème. Parce que je ne connais pas mon âge. On est parti directement aux têtes de police. On nous a pris, on a dit qu'on est mineur. Après, il nous a ramené dans un hôtel. On a resté là-bas. Et une semaine après, il est venu nous chercher pour nous poser des questions. Pourquoi on est venu ici à Montpellier? Pourquoi on est venu en France? Où on a passé? Quel âge on a? J'ai dit, je ne sais pas. Il nous a gardés là-bas, il nous a gardés dans l'hôtel pendant presque 2 ans. Et nous, on demande pour aller à l'école, on n'a pas eu d'école. Mais là, à Montpellier, ce qu'il nous a fait ici à Montpellier, ça m'a fait très très mal. Je n'oublierai jamais ça. En fait, quand tu arrives à Montpellier, on te fait une test sous-eau parce qu'on ne te croit pas. On te regarde ton corps si tu es mineur ou tu n'es pas mineur. Il nous a ramené à l'hôpital pour nous habiller toute nuit, pour nous mettre dans une machine devant tout le monde. J'ai dit, mais à quoi il joue? Pourquoi il nous fait comme ça, en fait, tu vois? J'ai pas compris, mais j'ai pas aimé, mais j'avais pas le choix. Du coup, si tu veux pas, tu gardes, j'ai deux gages ici, bon, j'avais pas le choix. Du coup, j'ai accepté, mais je les pardonnerai pas jamais. Après un jour, ils sont venus pour dire que bon, Daouda, tu n'es pas mineur, du coup, on peut pas te prendre. Et là, je suis quitté au foyer. Je suis quitté au foyer. Après, il y a des gens qui me récupéraient à Cesu. Ici à Montpellier. Du coup, j'ai fait des cours de français avec l'association, avec Simane, avec beaucoup d'associations, avec la Croix-Rouge. Du coup, là où j'ai appris à l'alphabet, écrire mon nom, écrire mon prénom, et là, c'est tout commencé comme ça. Après, je me suis dit non, je ne veux pas rester comme ça, il faut que je trouve un travail. J'ai cherché de travail partout, à Montpellier, les pizzeries, les kebabs, les restaurants, pour dire que je vais faire des planches, non. Personne ne m'a pris. Parce que j'avais pas les papiers. Après, il y a ma marraine qui m'a dit, mais tu vas à Emmaüs. Après, elle a appelé le directeur Emmaüs. Emmaüs, il a dit que non, il n'y a pas de place. Du coup, on attend. Après, je me suis dit, non, je ne vais pas rester comme ça chez toi ici. Je veux partir à Emmaüs, même s'il ne m'apprend pas, je vais rester dehors là-bas. Et je suis parti le premier jour, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de place. Du coup, j'ai récupéré des tapis avec des couettes. Je me suis mis dans un figuier et j'ai dormi là-bas. Après, tout le jour, je vais là-bas pour manger, le déjeuner et je reviens. Après un jour, le directeur m'a dit qu'il y a une place. Parce qu'il y a un monsieur qui a fait des conneries, du coup, on les a dit que tu veux prendre la place. J'ai dit, ok. Il m'a dit, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, je sais rien faire. Parce que je n'ai pas eu de formation, je n'ai pas eu d'école, mais j'aime bien la cuisine. C'est comme ça que le directeur m'a rentré dans la cuisine. Du coup, je travaille à la cuisine 3 ans. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas aussi. Mais... le premier patron, il était très méchant, il était très raciste avec moi là-bas aussi, mon chef. Mais je me suis dit, bon, j'ai passé le plus difficile, du coup, je ne peux pas me décourager avec lui, quoi. Et parfois, il me jette des tics dessus, et il m'a dit, si je travaille, et je chante, et il me dit, on n'a pas dans les champs de coton, et c'est une tique des paroles racistes que je ne comprends pas. Je ne savais même pas que les racistes, ça n'existe. Et il me dit des paroles comme ça. Et je demandais à ma marraine, elle me dit, mais il n'a pas le droit de te dire ça. J'ai dit, je m'en fous en fait. Si ça lui fait du bien de dire ça, il n'a qu'à continuer. Du coup, ça ne me regarde pas. Et il dit, non, ça te regarde parce que tes frères aussi, ils ont vécu de ça. Il faut que tu te défends. Et je me suis dit, là, non. J'ai accepté 3 ans et c'est pas beaucoup. Et c'est pas du tout facile à trouver le travail ici en France. Par exemple, moi, et quand j'étais à Emmaüs, j'ai fait beaucoup de CV. Après, quand ils voient mes CV, j'écris dans mon CV ce que je sais faire. Après, quand les patrons ils voient mon CV, ils voient ma tête, ils ne veulent pas me prendre. Du coup, ma marraine a dit, si c'est comme ça, peut-être t'es noir, on enlève les photos. Après, il y a un patron, tous les patrons qui m'appellent, quand je viens en présent, il me dit « non, c'est pas possible ». Je dis « mais pourquoi c'est pas possible ? Il n'y a pas de raison. Il ne peut pas m'expliquer pourquoi il ne me prend pas. » Bon, franchement, j'ai beaucoup galéré pour ça. C'est les gens qui pensent que c'est facile à trouver le travail. Je ne dis pas peut-être c'est pour les Noirs ou c'est les Arabes ou je ne sais pas quoi, mais pour nous, les Noirs, c'est très compliqué de trouver le travail. Surtout si je ne parle pas la langue, c'est très compliqué. Moi, je me suis battu beaucoup pour apprendre la langue, pour pouvoir travailler avec les gens. S'ils me parlent, et je comprends ce qu'ils disent. Il faut tout le temps se battre pour arriver à la destination. Parce que si quelqu'un qui dit, oui, on ne te prend pas aujourd'hui parce que c'est à cause de ton couleur de peau, moi, je pense que ce n'est pas une raison. Il faut toujours de te battre parce que ce n'est pas toi qui as choisi la couleur. Et si le patron ne t'aime pas, il y a un autre qui veut t'aimer, il ne faut pas te décourager sur ça. Moi, je pense qu'il faut toujours avancer en face. Il ne faut pas regarder ce qu'on a fait derrière. Il faut toujours regarder devant. C'est ça que moi, je fais. ça m'a un peu grandi. Ça m'a un peu ouvert les yeux. Ça m'a donné beaucoup d'idées. Mais aujourd'hui, si quelqu'un qui me dit comme ça, je le réponds. J'ai fait 3 ans à Emmaüs. Après, j'ai demandé la carte de séjour à la préfecture. Après la préfecture, ils m'ont accepté. Là, j'ai mon carte. Après, j'ai rencontré Philippe. Bon, je ne savais pas que c'était vous. Et ils m'ont dit, non, en France, si tu as des cartes comme ça, tu ne peux pas trouver de travail comme ça. Il faut que tu fasses l'école. J'ai dit, mais Philippe, pour faire l'école, c'est très compliqué pour moi. Je ne parle pas la langue et puis je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Comment je fais pour mélanger avec les Français à l'école? Il dit, essaye quand même. Essaye quand même. Je me suis dit, ok, je vais essayer. Après, on part à l'école. Les professeurs, ils me parlent. Je comprends absolument rien. Je comprends pas. Il me dit, est-ce que tu comprends? Je dis, non, je comprends pas. Il dit, mais c'est pas possible. Alors, si tu comprends pas, on va te sortir avec les autres. Après, je dis à Philippe, et ils vont me sortir. Moi, je vais retarder tout le monde. Après, Philippe, il a appelé les professeurs pour dire, non, Daouda, il va prendre. On peut pas le sortir comme ça. Du coup, il m'a accepté. Après, petit à petit, quand j'arrive à la maison, j'ai tout ce qu'on m'a demandé à l'école. Du coup, je regarde toute la nuit, je pense à ça, je révise. Après, le lendemain, quand je pars à l'école, je répète la même chose. Après, le pratique, j'étais très fort. Le pratique, j'étais tout le temps le premier parce que j'ai déjà travaillé, j'ai l'expérience. C'est les pratiques qui m'ont beaucoup aidé à l'école. J'ai pris beaucoup de points à mon CAP. C'est ça qui m'a sauvé. Après, j'ai eu mon CAP et Philippe m'a aidé pour trouver un patron. C'est là où je travaille maintenant. C'est un traiteur, je fais des mariages, les baptêmes. On fait plein de choses à Montpellier ici. On sort tout, parfois on part à Bordeaux, à Toulouse, Lyon. On travaille tout là-bas en fait. On ne triche pas et c'est très bien payé, mais on travaille beaucoup, on travaille énormément. Parfois, je commence à 6h du matin et j'arrive le lendemain à 6h du matin à la maison. Et puis, il faut que je repars à 7h. Si je travaille comme ça, et parfois on ne dort pas. C'est très compliqué, mais bon, ça va. C'est pas, je ne vais pas faire toute ma vie dedans, mais parce que mon objectif, je veux travailler beaucoup comme ça. Après, je pars au bateau. J'aime bien travailler au bateau. Après, je vais aller travailler au bateau. Je me rappelle quand je suis arrivé à Montpellier, et j'ai tellement peur, j'ai dit non, je ne peux plus retourner dans la mer de Méditerranée parce que ça fait tellement peur. Parfois, je fais des rêves, des cauchemars, je vois des trucs horribles que j'ai vécu. J'ai vu les gens, ils sont morts devant moi, mes meilleurs amis, ils sont morts devant moi, et je ne dors pas tout seul. Et je vois que des morts, que des morts, que des morts, que des morts, et des choses horribles qu'ils ont fait. Mais après, ils m'ont dit, il faut que tu ailles voir une psychologue, on va te donner des médicaments, ça va te guérir, ça va enlever le stress. Mais ça ne m'a pas guéri. En fait, j'ai remarqué quand je pars à la mer de Méditerranée, à Palavas ou à Latte, je m'assois, je regarde la mer Méditerranée, je me sens calme. Après, quand je rentre à la maison, je dors très bien. Je me suis dit, peut-être ça, c'est la solution pour moi. Bateau croiseur. Ils m'ont dit que c'est très compliqué, mais j'ai envie de découvrir pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Je me suis dit, un jour, si j'ai des moyens, peut-être je vais tourner dans la mer pour me soigner. Peut-être c'est ça qui va me soigner.
C'était Espèce de chômeur. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à écouter les autres et à les faire découvrir autour de vous. Et pour en savoir plus sur l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, rendez-vous sur snc.asso.fr.